Chapitre 19. Le lendemain du jour où Belloc avait eu sa première attaque, Sélanie était accourue à Saint-Maclou chez M. de la Broquerie, le juge de paix, pour le prier d'apposer les scellés chez Simon, aussitôt que celui-ci serait mort. « Ce que mon mari désirerait, dit-elle, car c'était toujours au nom de son mari qu'elle parlait, comme s'il était tout, tandis qu'elle ne serait rien qu'un simple porte-voix. Ce que mon mari désirerait et qu'il m'a chargé de vous demander, ce serait qu'aussitôt la mort de Simon Belloc, il fût procédé à l'apposition des scellés chez lui. C'est facile. Je sais bien, mais ce que mon mari désirerait, ce serait qu'il fût procédé à cette apposition sans délai, sans attendre de réquisition. Je n'ai pas besoin de réquisition, je peux les apposer d'office. Eh bien, c'est justement cela que je viens vous demander. Vous demeurez à la porte de Simon Belloc, vous serez le premier averti de sa mort. S'il meurt. Croyez-vous donc qu'il puisse en réchapper ? Puis, rattrapant ce cri, bien entendu, s'il meurt. Vous comprenez qu'avant que nous puissions venir, il s'écoulera un certain temps, et pendant ce temps, il peut se passer des choses graves. Simon mourra avec la clé de son secrétaire dans sa poche ou sous son oreiller. Il ne faut pas que cette clé puisse être prise par des personnes qui en abuseraient. Il y a quelquefois des sommes considérables dans ce secrétaire. En tout cas, il y a des valeurs au porteur qui pourraient être facilement soustraites. Il serait malheureux que nous, héritiers, nous soyons volés. Certainement, dit le juge de paix avec une ironie sérieuse, ce serait malheureux. Je vous promets de faire diligence en cas de mort. Vous ne devez pas vous absenter. Je ne le pense pas, mais si vous pouvez me dire le jour et l'heure de la mort de M. Belloc, je vous promets de rester chez moi à l'attendre. Sélanie avait trouvé prudent de ne pas se fâcher de cette sotte réponse et elle avait continué, pendant qu'elle était à Saint-Maclou, à prendre ses précautions. Après le juge de paix, elle avait vu la mère d'un des commis de Belloc, avec laquelle elle avait été liée autrefois, et elle lui avait demandé que son fils montât dans la chambre de son patron aussitôt que celui-ci mourait et ne la quittât pas avant l'apposition des scellés. Puis elle avait adressé la même demande à Benjamin, à qui elle avait promis une belle récompense. Peu de temps après cette visite, le juge de paix en avait reçu une autre, non moins étonnante, celle de la servante de Belloc, qui, n'ayant point la langue de Sélanie, avait été longtemps à expliquer ce qu'elle voulait. C'était bien simple cependant. Son maître lui avait promis de ne pas l'oublier dans son testament. Alors, de peur que la famille ne fasse disparaître ce testament, on peut se défier, n'est-ce pas? Elle venait demander à monsieur le juge de paix si, quand son maître, son pauvre maître, serait mort, puisqu'il devait mourir, il n'y avait pas quelque chose à faire pour mettre ce testament à l'abri. Il y a à mettre les scellés dont vous pouvez requérir la position en votre qualité de domestique. Prévenez-moi donc aussitôt que votre maître sera mort et votre testament sera en sûreté s'il y en a un. Pour sûr qu'il y en a un. Les scellés avaient donc été apposés par M. de la Broquerie 5 minutes après qu'on avait trouvé Belloc mort et il allait procéder à leur levée. Et le notaire allait dresser l'inventaire en présence des héritiers présomptifs Sylvain Belloc, accompagné de sa femme, Marichette, assistée de Mademoiselle Julienne. L'intitulé dicté par le notaire à son clerc parut d'une longueur mortelle à Sélanie. C'était bien de ces choses abstraites qu'elle avait souci vraiment, des noms et qualités des requérants. C'était l'ouverture du secrétaire de Belloc, ce fameux secrétaire qui allait livrer enfin le secret de cette fortune dont elle espérait bien avoir la moitié. Quand l'intitulé fut à peu près achevé, elle fit demander par son mari qu'on commençât par l'ouverture de ce fameux secrétaire. Et il ne fut pas fait d'opposition à cette demande, le juge de paix et le notaire eux-mêmes ayant la curiosité de savoir quelle pouvait être cette fortune dont tout le monde parlait mais que personne ne connaissait. Comme on montait l'escalier pour se rendre à la chambre de Belloc, le juge de paix fut arrêté dans le vestibule par la servante. Quand vous aurez trouvé quelque chose, vous me le direz, n'est-ce pas ? Murmura-t-elle. Car elle persistait dans l'idée qu'elle avait son testament et qu'on allait bientôt le trouver. Cela ne devait-il pas être, puisque son maître le lui avait promis. Le scellé ayant été reconnu sain et entier par le juge de paix, il fut procédé à l'ouverture du secrétaire et le notaire commença à classer les titres de propriété, les grosses d'obligations, les récépissés de valeurs déposées qui se trouvaient dans un ordre parfait. Faites donc le total de ses obligations et de ses valeurs, demanda Sylvain, soufflé par sa femme. Le notaire, qui n'attendait qu'un mot, procéda à cette opération. Elle donna le chiffre total de 2 300 000 francs pour les obligations et les valeurs, sans compter les propriétés, le casino, la maison d'habitation, les terrains à bâtir, une ferme, la maison de commerce, qu'on n'avait pas à estimer, mais qui valait au moins 1 500 000 francs. C'était donc une fortune de près de 4 millions que laissait Belloc. « C'est bien mon chiffre !» s'écria Célanie, montrant ainsi avec quelle sagacité elle avait suivi et calculé la marche progressive de cette fortune. L'opération continua par l'examen des tiroirs. Au second qu'on ouvrit, on trouva le testament fait par Belloc en faveur de Marichette et qu'il avait jeté là quand le doyen le lui avait rapporté. Quelle surprise ! Chez Célanie, quelle fureur ! Pendant un temps assez long, l'inventaire fut suspendu par les crises et les commentaires. Alors, jugeant qu'elle n'avait rien à faire au milieu du brouhaha général, Marichette adressa un signe à Sylvain pour qu'il sortît avec elle, ayant à lui parler en particulier. Ils descendirent au rez-de-chaussée. « Vous savez, dit-elle, que je n'ai aucune part à ce testament que j'ai refusé. Je crois de mon devoir d'en réparer l'injustice dans une certaine mesure. » Je vous prie donc d'accepter les deux maisons de commerce de M. Simon Belloc dans l'état où elles se trouvent présentement, avec leurs approvisionnements, leurs voitures, leurs chevaux, enfin tout ce dont elles se composent. Vous êtes encore jeune, vous pourrez continuer librement ces grandes affaires qui ont donné de si gros bénéfices. « Tu es une brave fille !» s'écria Sylvain en l'embrassant. C'était Mademoiselle Julienne qui avait inventé cette combinaison. « Vous vous conduisez noblement envers ce pauvre Sylvain, avait-elle dit, en même temps que vous condamnez sa femme au travail. Ce sera la punition de la coquine. » En ce moment même, la coquine était frappée par une autre punition, ou tout au moins par une cruelle humiliation. Le notaire avait continué à inventorier les secrétaires, et dans un grand tiroir, il avait trouvé un tas d'enveloppes de lettres cachetées. Plus d'une centaine, sur laquelle il y avait une mention de la main de Simon Belloc. Il en prit une et lut la mention. « Madame de la Brohe, 15 septembre 65. » Intrigué, il ouvrit l'enveloppe qui ne contenait qu'une mèche de cheveux. C'était le tiroir de la comptabilité amoureuse de Belloc. « Jetez cela au feu !» dit le notaire à son clerc. « Pourquoi donc brûler cela ?» s'écria Célanie qui était sur son dos. « Les cheveux de Madame de la Broquerie avec la date, c'est très drôle. » Effrayé, le notaire avait cherché le juge de paix et heureusement il ne l'avait pas aperçu, celui-ci étant descendu quelques instants auparavant. Alors, n'écoutant pas la protestation de Célanie, le notaire avait jeté l'enveloppe au feu. « Quelle honte pour un homme !» dit Mademoiselle Julienne au greffier, qui approuva. Le notaire continuait, avec une maligne curiosité, la lecture des mentions des enveloppes, mais sans ouvrir celle-ci. À un certain moment, il entendit une à Célanie, sur laquelle était écrit « C'est là, 7 mars 65. »« Brûlez donc vous-même cette enveloppe, madame, » dit-il avec une politesse exagérée, dont tout le monde comprit le sens. Monsieur de la Broquerie remontait au moment où l'enveloppe de Célanie, jetée au feu, brûlait avec un grésillement qui disait qu'elle n'était pas vide. Mis au courant de cette bizarre trouvaille par le notaire, il dit qu'il fallait brûler tout cela et le tiroir fut vidé dans la cheminée. Cette grande flambée emplit la chambre d'une puanteur de cheveux brûlés. Marichette et Sylvain remontèrent bientôt dans la chambre où ils trouvèrent Soupardin qui venait d'arriver et qui était en conférence dans un coin avec Célanie. Sylvain, tout joyeux, expliqua à sa femme ce que Marichette voulait faire pour eux. En l'écoutant, Soupardin secouait la tête. « Qu'avez-vous donc ? » lui demanda Célanie. « Je vois que Mademoiselle Marichette s'abuse sur le testament de M. Belloc aîné. En lui donnant tout ce dont il pouvait disposer, celui-ci ne lui a donné qu'une partie de sa fortune. » En effet, au terme de l'article 911, la mère de l'enfant naturel ne peut recevoir aucune part d'héritage non dévolue à ce dernier parce qu'elle est vis-à-vis de lui personne interposée. Héritière du décujus, elle n'a droit qu'à la moitié de la portion libre, déduction faite de la part attribuée à son fils. L'autre moitié, c'est-à-dire environ 1 million, vous appartient, monsieur Belloquet. » Il y avait loin de ce million à ce que Sélanie avait espéré, cependant c'était un triomphe. « Laissons-la triompher, dit Marichette à mademoiselle Julienne, et retournons auprès de Pierre, qui maintenant est à moi, bien à moi. » « Et à moi, donc !» s'écria la vieille fille. Fin du tome 2 de Marichette, de Hector Malot.